Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Merci Léana, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans une semaine sportmédable jusqu'à 17h45. Nous allons décrypter l'actualité sportive, nationale, internationale. On parlera de rugby, golf, cyclisme et football. Avec moi ce soir autour de la table, prêt à débattre, Pierre Forest, Éric Figuère et Gérard Salin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation. On va démarrer et ouvrir cette émission avec du rugby puisqu'il y a une double actualité en ce moment entre la Coupe du Monde féminine et le Top 14. Honneur aux dames avec vous, Pierre Forest. On va parler des dames, donc bien sûr, qui
font partie
de la Coupe du Monde. Les demi-finales se sont jouées. Malheureusement, ce n'est pas passé pour l'équipe de France face à l'Angleterre. On s'attendait à un gros duel face aux Anglaises.
Même si cette défaite, on s'attendait à l'occasion de ces demi-finales. Il faut savoir aussi que des quatre équipes en demi-finale, la France avait eu beaucoup de difficultés pour se débarrasser des Irlandaises en quart de finale. Hein, le score très
18,
serré,
13, 18, 13,
18 à 13. Et par contre, les Black Ferns, hein, les Néo-Zélandaises, les Anglaises et les Canadiennes avaient atomisé leurs différentes adversaires. Donc on pouvait s'attendre à un match déséquilibré dans cette demi-finale contre les Anglaises. Et ça a été tout le contraire. On a eu une équipe de France qui nous a surpris et qui a même dominé la première mi-temps, que ce soit dans la possession du ballon et dans l'occupation du terrain, ne passant la mi-temps qu'avec 2 points de retard, ce qui était énorme vis-à-vis des Anglaises, qui étaient largement favorites. Et puis malheureusement, ils ont joué leur jeu, et malgré aussi le fait qu'ils avaient 3 suspendus, hein, les Anglaises pour cette demi-finale, dont la vice-capitaine saint-foutounienne Féléou. Et malgré tout ça, ils ont quand même tenu la dragée haute à des Anglaises, qui finalement ont fait rentrer leur remplaçante, les finisseuses, comme on dit. Et puis là, ça a été... Donc, pour des petites fautes, soit des fautes de main, ou soit des touches pas trouvées, bon, la France...
S'incline 35-17, voilà. Mais il y a toujours cette petite marge, puisque la France, à chaque fois, on a l'impression, se retrouve en petite finale et n'arrive pas à passer ce cap d'aller
Alors,
chercher...
Il y a peut-être une explication, c'est que les Anglaises, comme les Néo-Zélandaises et comme les Américaines, disputent un championnat pro, chose que les Françaises ne font pas puisque c'est purement amateur, sauf peut-être pour les, je crois qu'il y en a une quinzaine qui sont sous contrat avec la FFR et donc qui ne font que s'entraîner, mais la plupart travaillent ou poursuivent des études. Par exemple, Féléou, elle est en 5e année de médecine, donc comme elle disait sur un reportage, quand on joue le championnat le dimanche soir, on rentre à minuit, on prend le bus, on rentre à minuit au retour, surtout quand on joue à l'extérieur, puis le matin, il faut aller au travail, il faut aller à la fac, c'est pas évident. Donc peut-être que si un jour on bascule sur un statut pro, ça réduira un petit peu les différences qu'il y a entre les équipes. On a les Anglaises, on a les Néo-Zélandaises. Les Néo-Zélandaises, elles ont gagné 6 fois la Coupe du Monde. Les Anglaises, 2 fois.
Les Néo-Zélandaises qui sont tenants du titre.
Ouais, tenants du titre. Les Anglaises, 2 fois, me semble-t-il, et 1 fois les États-Unis. Donc c'est réservé à ces 3 équipes. Et bizarrement, ces 3 équipes sont provisionnelles. Enfin, bizarrement.
Et donc,
c'est ce qui explique peut-être cela.
On va rappeler qu'en finale, la France affrontera la Nouvelle-Zélande. La grande finale opposera le Canada à l'Angleterre. Un duel là aussi entre le Canada, il faut rappeler qu'il est l'équipe numéro 1 actuellement.
Hein. La surprise est venue de l'autre demi-finale également, entre les Black Ferns, les Néo-Zélandaises et les Canadiennes. Les Canadiennes, concernant le rugby, sont vraiment en progression de ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est les Canadiennes qui nous avaient éliminés, qui avaient éliminé l'équipe de France féminine en quart de finale. Et là, on voit la surprise de sortir les Néo-Zélandaises, tenantes du titre, 6 fois vainqueurs de cette Coupe du Monde. Donc, les Canadiennes, ils ont un système un peu identique aux Américaines, c'est-à-dire avec les universités. Donc, le sport à l'université, et on le voit avec les résultats du 7 aux derniers Jeux Olympiques, et maintenant avec l'équipe à 15.
Donc, un pronostic pour cette finale, Pierre Forest, Angleterre-Canada.
Alors, des 2 demi-finales également, on a senti, enfin, tous les cas, moi j'ai vu qu'il y avait une certaine fébrilité de la part des favorites. Les Anglaises, c'est normal, elles jouent chez elles. Elles étaient un petit peu, peut-être par l'enjeu, extrêmement contractées, des fautes qu'on n'a pas vues en quart de finale et même les matchs de poule. Et pareil pour les Néo-Zélandaises. Donc, moi je donnerais Normalement, les Anglais sont favorites chez elles, mais je donnerai les Canadiennes parce que le jeu qu'elles ont produit, c'est vraiment un beau jeu.
C'est pas un pronostic, ça.
Éric Figuère.
Les Canadiennes, mais les Anglaises.
Non, mais... La logique voudrait que ce soit les Anglais.
La logique, mais le terrain.
Mais mon favori, c'est les
Canadiennes. Les Canadiennes vont gagner.
Éric Figuère, même avis.
Oui, je pense que l'analyse est évidemment encore une fois très bonne. Les Anglaises chez elles ont une énorme pression, comme l'avaient les Néo-Zélandaises qui étaient les tenantes du titre. Et donc le Canada qui a montré qu'elle était une très très bonne équipe, très très bonne équipe. Du coup, est tout à fait à même de gagner cette finale. Et je pense qu'elle va gagner.
On va se tourner vers Gérard Salin, dernier avis.
Je pense que d'abord, pour la France, je crois que c'est une équipe en devenir. Ils ont très bien montré de belles qualités. Et puis pour la finale, je pense que... Moi, je pense plus à l'Angleterre, parce qu'elle va faire jouer son expérience quand même sur le Canada, qui est une équipe jeune, mais qui a vraiment de belles qualités. Ça va être une belle finale.
Une équipe d'Angleterre qui jouera à domicile, peut-être un plus en aussi plus. Pour cette finale. De la Coupe du Monde, on va passer au top 14 avec une journée, troisième journée, donc ce week-end qui s'est joué. Et on va déjà revenir sur cette défaite du Stade Toulousain ou cette victoire de Montpellier. Comment on doit appeler ça? Toulouse qui a chuté lourdement à Montpellier. Comment on dit? On dit que Montpellier a très bien joué, que Toulouse a perdu.
Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le champion de France sortant, hein, Toulouse. Il faut surtout se focaliser sur la performance de Montpellier à domicile. Il faut savoir qu'on est, comme vous l'avez dit, on est à la troisième journée. Les deux premières journées avaient vu une défaite de Montpellier à domicile. Me semble-t-il, c'était contre Toulon.
Oui,
et ensuite, ils avaient perdu un deuxième match à l'extérieur à Bayonne. Et là, un troisième faux pas était synonyme un peu de crise au sein du club Hérolté. Donc, ils avaient préparé évidemment l'accueil évidemment, quand on joue contre le Stade Toulousain, qui a toujours gagné à Montpellier les 6 derniers matchs, 10 ou 13 derniers matchs. Donc, voilà, c'est une victoire méritée. Et contrairement à ce qu'on avait vu de Toulouse, alors déjà, il y avait des prémices à l'occasion de la deuxième journée où Toulouse avait gagné à domicile contre l'USAP, hein, Perpignan. L'entraîneur, c'était le seul à... Hugo Moula,
l'entraîneur du Stade Toulousain.
Avait poussé une gueulante, comme on dit, même s'ils avaient gagné de 30 points. Il avait déjà alerté le fait que certains joueurs étaient un peu en dilettante, etc. etc. Et là, il y avait vraiment une belle équipe contre Montpellier, à Montpellier aligné. Donc une première ligne internationale, l'équipe de France. Hein, Baye, Aldighieri en pilier et Marchand en talon, et on ne pouvait pas faire mieux. Et Ramos en numéro 10. Mais là, ils ont commencé à faire le premier essai est symptomatique, puisque c'est un dégagement contré de Ramos. Et là, c'est fini.
Mais
après,
ce qui est vraiment anecdotique sur cette rencontre, c'est quand même le pack d'avant toulousain qui a été plus que malmené. Le nombre de ballons portés, de mêlées remportées par les Montpellierains aussi. Ouais.
Exactement. Donc ce n'est qu'une troisième journée. Je pense que le bus qui a ramené les joueurs toulousains, parce qu'il a rendu, après le match, il a donné rendez-vous dans le bus à minuit, puisqu'il est rentré sur Toulouse, Montpellier-Toulouse. Ça n'a pas dû être un voyage très plaisant pour les uns comme pour les autres. Et je pense qu'à la semaine, là, ils reçoivent au prochain tour, ils reçoivent Castres. Donc les Castriers doivent se poser beaucoup de questions, parce qu'ils vont être aussi comme il se doit, parce que là il y a deux matchs de Toulouse qui défaussent un petit peu, c'est pas habituel pour de la part des champions de France.
Il y a une équipe qui en revanche a dû faire la fête, c'est le Loup, Lyon, qui enchaîne une troisième victoire consécutive,
oui,
un match compliqué face au Stade Français.
Trois matchs, trois victoires, ils ont quand même eu un début de saison à leur portée, hein. Je crois que le premier match c'était contre le Racing, qui n'étaient pas encore dans ces bons papiers. Le deuxième match, ils ont été gagnés largement à Montauban, nouveau promu. Et là, à domicile, contre la deuxième équipe parisienne, le Stade Français. Donc, ils ont un a priori favorable sur le début de championnat.
Et un petit mot sur l'UBB, voilà, qui a laissé aucun cadeau à Montauban
premier.
Malheureusement pour eux, Montauban qui vient de monter, mais qui enchaîne les défaites. C'est toujours compliqué pour l'équipe qui monte de Pro D2 pour s'imposer en top 14.
Surtout que la désignation,
la manière dont elle est montée.
Ouais, surtout que la désignation, contre Grenoble, avec les matchs aller et retour, a désigné tardivement l'équipe qui est montée. Et,
surprise.
Tous les joueurs à recruter, ils n'ont pas eu le temps de recruter ni de trouver d'autres sponsors, parce que c'est un autre niveau, le top 14. Et là, il faut avoir deux équipes, trois équipes. Toulouse, ils ont trois ou quatre équipes de même valeur, mais Montauban sort de Pro D2. La saison va être longue pour eux. Très long.
Oui, alors, un petit mot sur la prochaine journée. Il y aura un choc déjà entre la section paloise qui est là, qui continue malgré la défaite ce week-end, qui est toujours troisième au classement, qui recevra le leader.
Ça va être le leader qui va se déplacer sur un celui qui était invaincu jusque-là aussi, malheureusement qui a perdu ce week-end, mais qui va évidemment vendre chèrement sa peau. Et on a une très très belle équipe jeune de la section paloise qui joue un agréable rugby. Donc, le loup... devra sortir ses griffes, comme on dit, pour pouvoir se sortir du piège de la section paloise.
Oui, c'est ça, vous disiez.
Non, le loup va sortir de sa tanière.
Surtout l'ours au Bernay.
Un beau duel encore qui s'annonce. D'autres duels sur les routes, cette fois, puisqu'on va parler de cyclisme, avec les championnats du monde qui se déroulent en ce moment. C'est au Rwanda, à Kigali, la capitale. Il y a eu le contre-la-montre, cette nuit, la nuit dernière pour nous, Gérard Salin, contre-la-montre homme, contre-la-montre dame, un petit retour là-dessus.
Je crois que c'était une belle démonstration des deux vainqueurs, hein, parce que Remco et Evenepoel a écrasé le contre-la-montre. On s'attendait un peu parce qu'il gagne, mais avec un écart aussi important.
1 minute 14 sur le second.
Le second qui a fait un bel exploit, l'Australien Jane Vine qui montre qu'il a des grosses qualités. C'est pas la première fois qu'il se classe dans les contre-la-montre. Et il a des grosses qualités, il se rapproche de Remco. Donc, peut-être des beaux duels pour l'avenir. Après, on parle beaucoup de Pogacar qui s'est fait rattraper, mais il faut dire que seul dans ce contre-la-montre, Jane Vine ne serait pas fait rattraper. Hein. Tous les autres coureurs se seraient fait rattraper par Evenepoel. Et puis... Pogacar, ce n'est pas quand même un spécialiste du contre-la-montre.
C'est pas un spécialiste, mais on l'annonçait quand même comme parmi les favoris.
Oui,
peut-être pas au niveau des
Venepoules. Il y a un peu de cote, de pourcentage. Donc on pensait qu'il allait faire jeu égal, mais Pogacar, c'est plus dans les grands cols qui performe, c'est pas dans les petites bosses comme ça. Et puis, il y a l'aérodynamisme qui joue beaucoup, il n'est pas aérodynamique, il n'a pas une position aérodynamique, tandis que Evenepoel, par sa petit gabarit, il a une position très aérodynamique. Et tous ces trucs jouent beaucoup. Après, Evenepoel a fait un exploit, quoi, parce que rouler à 48 avec des parcours comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc, il a bien préparé son truc, je pense qu'il a... Il a bien préparé depuis longtemps, mais ça m'étonnerait qu'on le voit en ligne. Je pense pas qu'on va le voir en ligne. Je pense que Pogacar, peut-être d'autres aussi vont.
On va en parler de la course en ligne qui aura lieu le week-end prochain. Ouais. Mais un petit mot encore sur ce contre-la-montre. Les Français, où est-ce qu'ils sont est-ce par rapport aux internationaux?
Mirai, il a sa place, hein, 8e, je crois. Hein,
Huitième
à 3 minutes quand même. Donc il faut pas trop regarder
km.
Les places. Il faut regarder plutôt les temps. Ils sont assez loin. On a vu qu'Amirail avait du mal à terminer. Et puis le jeune Paul Sexas, c'est peut-être le lancer un peu trop tôt dans le bain.
16e tout de même, le jeune français. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il est jeune. Donc
dit, ouais, mais
on en parlait 14e, avant.
Ça ne veut rien dire. Il y a plus de 4 minutes. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit bien de l'avoir mis dans le. On brûle les étapes. Peut-être vaut mieux attendre quelques temps. Je ne sais pas, on verra hein, l'avenir. Mais je pense qu'il ne faut pas griller les jeunes. Et là, il n'a que 18 ans. Hein, c'est un gamin encore. Et il n'a même pas fini d'être formé. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu attendre qu'il fasse ses classes, normalement. Mais bon.
On verra déjà le week-end prochain sur la course en ligne, ce que ça donne. Il y a eu les dames aussi, 31 km le parcours. Alors les Françaises qui sont là aussi, Françaises dans le top 10 ou aux portes du top 10, à quelques... les temps sont moins importants,
oui,
on va dire.
La Suissesse qui avait jamais gagné un contre-la-montre, un championnat du monde, s'est là imposée parce qu'elle a souvent fait des podiums et elle passait à côté de la victoire.
Marlène Reusser.
Et là, elle a écrasé le contre-la-montre. 50 secondes, c'est pas rien quand même sur la deuxième qui n'est pas n'importe qui. Les deux deuxièmes et troisièmes.
Van der Breggen et Demi Vollering.
Van der Breggen et Demi Vollering, c'est des grandes coureuses. Bravo à cette Suissesse qui a vraiment fait un beau contre-la-montre, des beaux champions. Par contre, j'ai pas eu le résultat des jeunes catégories. Donc, je sais pas si...
Jeunes, ça va venir, c'est tout au long de la semaine. Alors, il y a eu le premier jour, c'était les élites, et après, au fur et à mesure, les plus jeunes, jusqu'à arriver le week-end prochain à la course en ligne, pour signer cette course en ligne. Donc, il y aura des boucles autour de Kigali. Ça, une quinzaine de boucles pour les hommes, 11 pour les dames. Ça fait 165 km pour les dames, un peu plus de 260 pour les hommes. C'est pas rien. Est-ce qu'il y a des favoris qui se dégagent déjà? Voilà, on en parlait avec Pogacar.
Le grand favori, ça va être quand même Tadej Pogacar, parce qu'il a montré que même s'il s'est rattrapé par Evenepoel, il a montré qu'il était bien présent dans le contre-la-montre. Il se bat pour le podium d'une seconde seulement. Donc, il est là, quoi. Hein, et je pense que ça va être le grand favori. Et puis, il a une revanche à prendre, quoi. C'est sûr.
Et un autre qui a peut-être une revanche à prendre, Alaphilippe, qui est-ce que...
Alaphilippe...
Qui a déjà remporté plusieurs fois.
Alaphilippe, il y a quelques temps, mais...
2020-2021.
C'est un gars qui se motive très facilement, et donc, oui, pourquoi pas. Hein. Après, il y a d'autres Français qui peuvent briller, mais ça va être dur pour eux,
on attend un petit peu le déclic. Hein.
Pierre Forest, oui.
Après, Alaphilippe, il y a qui derrière qui peut prétendre jouer les premiers rôles actuellement?
Justement, on parlait de Paul Sexas, qui est encore un peu jeune, peut-être.
Il est un peu jeune, mais il a des grosses qualités de grimpeur. Donc, pourquoi pas, parce que ça va être accidenté, je crois, le parcours. Donc mais pourquoi pas, mais il y a quand même des gros.
Deux belles bosses par tour, hein, chaque tour, deux bosses, donc c'est quand même.
Et puis il y a des gros calibres. C'est... Même s'il manque beaucoup de monde, parce que tout le monde n'a pas été, je pense à Ghana, Milan,
Vingegaard,
tout ça qui sont, je sais pas, peut-être fatigués, peut-être le parcours qui leur plaît pas. Et donc ils ont préféré pas se déplacer, ben, politique peut-être aussi, c'est certain, mais voilà. Mais bon, je pense que tirer Pogacar comme favori, c'est un peu normal.
Et chez les dames, même question, Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot aussi, la française, hein, faut pas l'oublier, elle est partie en retard, elle savait pas, oui, non, donc je...
D'accord, parce que j'ai pas suivi, mais je savais qu'elle voulait pas
y participer. À la base, c'est exact, elle ne voulait pas s'y rendre.
Ouais. Puis, tiens, Pauline, elle est capable, surtout sur un parcours comme ça, elle est capable de tirer son épingle du jeu. Et mais puis il y a les trois là. Surtout, je pense pas à Rosser parce que c'est plutôt une coureuse de contre-la-montre. Mais Vollering et Van Breggen peuvent briller dans ce parcours. Ouais.
Puisqu'il faut le dire, la vainqueur de l'an passé, Lotte Kopecky, n'est pas là.
Ah oui, elle n'est pas là. Ouais,
donc ça laisse aussi les portes ouvertes comme chez les. Ouais. Voilà, c'est.
Ben, il est un peu dur le parcours pour Kopecky, qui n'est pas une grimpeuse, c'est plutôt une coureuse. De tempérament qui va vite au sprint aussi parce que c'est une pista et donc là c'est des parcours assez difficiles, je pense que c'est pour ça qu'elle s'est pas déplacée, ouais.
On laisse la porte ouverte du coup peut-être à Demi Vollering
ou peut-être à une française
ou à une française aussi, on l'espère. On ferme donc cette page de cyclisme en attendant le championnat du monde qui aura lieu le week-end prochain, donc course en ligne, et on va parler de golf cette fois. Avec
sérieux, s'il vous plaît.
Chacun son tour, chacun son sport.
J'ai attendu patiemment.
On y vient, la Ryder Cup qui va démarrer dès la nuit prochaine, ce soir même, vendredi.
Ça ne démarre que samedi matin, Ça démarre vendredi aux États-Unis et samedi matin pour nous, avec le décalage horaire, puisque c'est aux États-Unis à New York. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Tout le monde est déjà sur place, hein, depuis déjà plusieurs jours, depuis le début de la semaine dernière. Donc ils sont arrivés en avance.
À New York. Hein,
à New York, exactement, sur un parcours extraordinaire. Mais avant qu'on parle un petit peu des forces en présence et d'émettre éventuellement quelques suppositions de victoire à venir, il faut quand même rappeler, chaque fois que j'ai l'occasion, je parle de golf, et notamment que c'est le sport individuel le plus pratiqué au monde. Donc c'est pas rien, et on ne le dit pas assez. Et la Ryder Cup, c'est la 45e édition cette année. C'est une compétition qui a 98 ans, qui est née en 1927.
Et qui se dispute tous les deux ans.
Qui se dispute tous les deux ans. Alors il y a eu quelques événements entre la Deuxième Guerre mondiale, entre le 11 septembre 2001, le Covid, etc., etc. Mais c'est quand même une compétition qui est extrêmement ancienne, qui est le troisième plus grand événement sportif suivi dans le monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc ça, on ne le dit pas assez, et je dis pour tous ceux qui nous écoutent, puisque ça va commencer samedi matin, et je vous encourage tous à regarder un petit peu sur les chaînes Canal, sans vouloir les citer, mais c'est comme ça, qui vont diffuser sur la 4, et puis sur la 89, je vous aide bien pour bien suivre. Regardez un petit peu, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder tout le temps, mais c'est un événement planétaire, et je n'exagère pas en disant ça, il y a une ambiance absolument fabuleuse, exceptionnelle, grandiose.
On l'a vu notamment en France en 2018, où ça a été une des plus belles éditions. Et là, ça va être aux États-Unis. Les Américains sont revanchards. Les Européens sont tenants du titre.
Justement, c'était la question que j'allais vous poser. L'équipe européenne qui pourrait garder son titre, alors, parce qu'il a gardé la même équipe. Hein, c'est exactement la même équipe.
Oui, qui a gardé. Il y a juste un des deux frères, Rochegard, effectivement, qui a été remplacé par l'autre, puisqu'ils sont deux jumeaux. Et l'un a joué il y a 2 ans et le deuxième joue cette année. C'est le seul changement. Mais on sait que depuis que les Européens ont rejoint, puisque les continentaux plutôt ont rejoint l'équipe européenne de Ryder Cup, puisqu'au départ c'était les Britanniques, c'était les Anglais contre les Américains. Et puis ensuite les Anglais ont été rejoints par les Irlandais. Et puis en 79 par les continentaux, parce que Severiano Ballesteros était un golfeur espagnol de grande renommée qui a fait venir le golf européen au plus haut niveau, en gagnant de très très grands tournois et tournois majeurs, notamment le Masters. Et puis Jack Nicklaus, à l'époque le plus grand golfeur de tous les temps américain, avait souhaité, pour que la compétition soit plus équilibrée, puisque les Américains gagnaient tout le temps, que justement les continentaux rejoignent l'équipe européenne. Et c'est à partir de 79 que ça a été le cas. Et depuis 79, eh ben, les Européens ont gagné 11 fois et les Américains 9 fois. Une seule fois, l'équipe européenne a réussi à gagner aux États-Unis et jamais les Américains, depuis 79, ont gagné en Europe. Donc ça veut dire que clairement, l'équipe qui reçoit gagne chez elle, à l'exception d'une fois, c'est l'Europe qui l'avait emporté. Mais c'est toujours effectivement l'équipe qui reçoit qui gagne. Donc évidemment que là, en plus, le numéro 1 mondial incontesté est américain. Sur les 10 premiers mondiaux, 7 sont américains qui sont évidemment dans l'équipe, contre 3 européens dans les 10 premiers mondiaux. Il y a un petit déséquilibre. Il y a toujours eu ce petit déséquilibre, il a toujours existé. Mais les Européens, par bien que justement ce soit un amalgame de plusieurs pays, et on aurait pu à chaque fois se demander si justement cet amalgame, cette disparité d'origine en Europe pouvait justement empêcher l'équipe d'être très soudée. En fait, ça a toujours été le contraire. L'équipe européenne a toujours eu un état d'esprit qui leur a permis à chaque fois, malgré le fait qu'ils ne soient jamais favoris, puisque les meilleurs mondiaux ont toujours été plutôt globalement côté américain, et les Européens à chaque fois on fait des éditions en Europe absolument fabuleuses. Ils ont gagné en Italie il y a 2 ans. Ça va être extrêmement difficile. Les Européens sont, alors, pour le coup, revanchards, non pas parce qu'ils n'ont pas gagné la dernière édition, mais parce que, en général, quand ils jouent aux États-Unis, ben, en fait, ils se prennent une fessée. Et donc, les meilleurs Européens, dont Rory McIlroy, se sont déjà positionnés en disant clairement qu'ils avaient gagné aux États-Unis cette année. Donc, ça promet beaucoup, beaucoup de combats. C'est un match qui se déroule sur 3 jours. Il y a 28 points à distribuer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 28 matchs.
La première à 14,5 l'emporte, en cas d'égalité.
La première à 14,5, si effectivement les deux équipes sont égalité à 14, c'est le tenant du titre qui conserve le trophée. Donc c'est assez simple, les Européens étant tenants du titre, s'ils arrivent à 14 points, égalité, ils garderont leur trophée. Mais donc il y a 2 jours de compétition en double, alors sur différentes formules, on ne va pas les évoquer parce que c'est un petit peu technique. Donc il y a 8 matchs le vendredi, 8 matchs le samedi, et ensuite donc il y a 12 joueurs de chaque équipe, hein. Il y a 12 Européens, 12 Américains qui se rencontrent, mais on voit qu'on n'en garde que 8 par journée, donc il y a un travail effectivement des capitaines
de sélection aussi,
pour faire jouer justement en double, trouver les paires idéales pour pouvoir performer. Et puis le dernier jour, il y a 12 Européens contre 12 Américains, donc les 12 simples, les 12 joueurs jouent chacun leur match.
Et c'est la journée décisive.
C'est la journée décisive, général, puisque évidemment, c'est là où on peut. Alors, en général, aux États-Unis, les Américains ont pas mal d'avance et il est très difficile de revenir. Et puis, il y a une ambiance alors, qui est fabuleuse, qui des fois est un peu outrancière de la part des Américains, puisque les Américains voilà, ne savent pas trop se tenir.
Et
sont dans l'excès. Donc, les joueurs, malgré tout, jouent le jeu. Alors chacun montrant qu'il est content d'avoir réussi un coup, d'avoir rentré un putt, etc. Donc il y a une ambiance fabuleuse des deux côtés. Les Européens, qui pour la plupart d'ailleurs jouent aux États-Unis, connaissent cette ambiance-là, connaissent les parcours américains, connaissent le jeu, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, les Européens sont tout à fait habitués à ces joutes et à ce match-là, ces matchs-là et ces parcours-là. Donc, ils sont en capacité tout à fait de gagner. Maintenant, ça va être extrêmement difficile. Et les Américains ont en plus cette année un capitaine qui, de par sa personnalité, Keegan Bradley, est là pour le coup vraiment à même de motiver ses troupes. Voilà. Maintenant, la la pression. On voit que le numéro 1 mondial, qui est incontestablement le meilleur du monde, Scottie Scheffler, n'est pas toujours le meilleur en Ryder Cup dans ces matchs très particuliers, puisque ce sont des matchs, ce qu'on appelle en match play, c'est-à-dire qu'en fait, un joueur rencontre un autre joueur, ou une paire rencontre une autre paire, ce qui est très rare chez les professionnels, puisqu'ils jouent toujours en stroke play, c'est-à-dire en fait, on joue 4 tours, et on additionne les scores de chaque jour, et le score le plus bas remporte le tournoi. Là, ça n'a rien à voir, donc d'ordinaire, les joueurs jouent contre tous les autres joueurs du champ, et ensuite, bah, c'est le meilleur, celui qui a fait le plus bas score, qui gagne. Là, c'est tout à fait différent. C'est vraiment un contre un ou deux contre deux, avec ses spécificités, avec, voilà, on joue un peu contre l'adversaire, on ne joue pas contre les autres, comme je viens de le dire, et ça change beaucoup la donne. Voilà, et c'est ce qui aussi donne des parties voilà, très spectaculaires et très, très intéressantes. Donc vraiment... Vraiment, les Calédoniens, regardez le golf ce week-end. S'il y a un moment dans votre vie, dans votre année, où vous devez regarder du golf, c'est ce week-end, avec, incontestablement.
Et avec toutes ces analyses, on va se laisser 2 petites minutes de réflexion. On va tourner une page de publicité. On va revenir justement pour les pronostics avant de débattre sur l'actualité du football avec aussi. Plaisir. On va tourner une première page de pub.
RRB, la pub.
Chante ma ville, c'est parti pour une nouvelle saison.
Vous aimez chanter, vous êtes professionnel ou amateur, dans un groupe ou en solo?
La ville de Nouméa propose 4 présélections pour tenter votre chance, le 25 septembre et les 2, 9 et 16 octobre.
Rendez-vous sur le site nouméa.nc pour retirer votre dossier d'inscription et vous lancer dans cette aventure. La clôture des inscriptions se fait une semaine max avant la présélection choisie. Informations détaillées, règlement du concours sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Jusqu'au 4 octobre, Cégel vous offre votre déjeuner vue sur mer. Chaque jour, de nouveaux gagnants. Rendez-vous en magasin pour tenter votre chance. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Cégel, votre magasin au complexe Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué, 4e kilomètre.
Faites vos courses autrement.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h32, retrouvez tout de suite votre semaine formidable présentée par Léo Fichou et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, seconde partie, on continue à parler golf, Ryder Cup qui démarre. Oui, encore en fin de semaine. On va faire les pronostics avant de passer à la page football. Bon, on va commencer par vous, Eric Figuère, avec toutes les infos que vous nous avez données. Plutôt Team USA, Team
Alors, Europe. Un petit peu comme tout à l'heure, Pierre, sur son pronostic Angleterre-Canada, la théorie voudrait que les Américains gagnent chez eux. Je l'ai suffisamment bien expliqué tout à l'heure, mais je vais être optimiste. Et je connais le niveau des Européens et je pense qu'ils vont créer l'exploit cette année.
Pierre Forest.
Je ne m'y connais pas trop en golf, mais j'avais juste deux questions à lui poser, parce qu'il a fait la comparaison avec d'autres sports. Évidemment, c'est très médiatisé, on le regarde tous à la télé, même si on n'y a jamais joué. Mais jusqu'à quel âge on peut jouer au golf?
Eh bien, en fait, il n'y a pas d'âge.
Quel est le plus âgé des meilleurs dont tu parles, des Américains ou des Européens?
Parce que les joueurs qui sont qualifiés pour la Ryder Cup ne sont pas très âgés. Quand je dis pas très âgé, pour les sports qu'on connaît, tous les autres sports, c'est déjà effectivement quasiment les fins de carrière pour les autres disciplines. Je crois que c'est Justin Rose, qui est l'anglais, qui doit avoir, je crois, pas loin de 45 ans. Ouais. Voilà, ce qui est déjà beaucoup quand on compare aux autres disciplines, bien sûr. Mais il y a Phil Mickelson, il y a quelques années, avait gagné à plus de 50 ans un tournoi majeur. Donc c'est une des spécificités de ce sport, c'est qu'on peut jouer très longtemps et on peut notamment performer très très longtemps. Alors évidemment, les jeunes aujourd'hui arrivent de plus en plus décomplexés et de plus en plus difficile effectivement de durer, bien évidemment. Mais justement, c'est ces golfeurs-là qui ont une hygiène de vie, qui vraiment ont une envie de performer longtemps, sont présents en général entre 45 et 50 ans. Ils sont encore très très performants, c'est ce que je disais pour Justin Rose, 45 ans, c'est assez exceptionnel, et c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc là c'est assez, assez phénoménal.
Gérard Salin, je me tourne vers vous.
Non, Pierre Forest parlait pour lui, parce que c'est un bon joueur de golf. Non, moi je pense que les Américains vont quand même s'imposer parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens. J'ai suivi un peu là. Ils se sont retirés dans une maison de campagne, je crois. Ils ont mis pas mal d'atouts. Ils sont très motivés pour gagner. Et donc, théoriquement, chez eux, ils devraient s'imposer. Mais c'est vrai que l'Europe a aussi une belle équipe.
On va dire que les Américains ont plus de chances de gagner que les Européens. Mais justement, on sait tous dans le sport que des exploits sont réalisés tous les ans. Et que là, pour le coup, la différence de niveau est certes un peu à l'avantage des Américains, mais pas tant que ça. Après, faudra gérer et la pression, mais surtout tout ce qui va se passer, en fait. Parce qu'il se passe tellement de choses que les rebondissements sont tout à fait possibles. Alors, bien évidemment, c'est facile de le dire, mais après les deux premiers jours de double, on y verra évidemment plus clair. Pour le coup, rien ne sera définitif. Mais c'est vrai que si les Américains arrivent avec entre 6 et 8 points d'avance, même si c'est arrivé une fois, je pense que ce sera à peine perdu.
On peut regarder à la télé
sur Canal Plus.
Oui, on peut regarder. Ouais, à partir de samedi matin, d'assez bonne heure. Oh, ça commence pour la Ryder Cup. Ça commence en général vers 6h du matin.
C'est 22h aux États-Unis.
Voilà. 6h du matin et ça dure jusqu'à 11h du matin. Voilà, donc toute la matinée, samedi matin, dimanche matin, lundi matin.
Top 14,
tu regardes un petit peu.
Et on reparlera bien évidemment de tout ça lundi prochain dans la prochaine émission de Semaine Sportmidable. On reviendra sur cette Ryder Cup 45e édition déjà.
Il faut en parler, c'est l'événement, le troisième événement le plus suivi au monde. Hein, je le rappelle, mais c'est important.
Et on espère que les Calédoniens seront nombreux à suivre cette belle compétition entre les Américains et les Européens.
Les Français participeront à cette belle fête. C'est déjà arrivé, mais ça fait un petit moment déjà.
On espère aussi qu'un Français, du coup, pourra être sélectionné. On pourra revenir, on pourrait s'étaler là-dessus sur les sélections, les qualifications, mais juste simplement rappeler que dans la Team USA...
Je suis prêt pour faire une émission entière de golf, hein, y a pas de souci, je suis disponible.
On prend note. Et on pourrait parler de tous les sports. On va venir un peu au football aussi, puisqu'il y a quand même une double actualité entre le championnat de France, le match reporté, le classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain, qui devait se jouer ce matin pour nous, qui se jouera demain matin à 5h.
En même temps.
En même temps ou presque, puisqu'à 6h, il y aura la cérémonie tant attendue, le Ballon d'Or, cérémonie du Ballon d'Or. Comment faire, messieurs, pour les Parisiens? Est-ce qu'ils doivent se rendre au Ballon d'Or? Est-ce qu'ils doivent aller jouer face à l'OM?
Ils vont aller faire leur match parce que c'est indispensable, c'est certain. Ils ne vont pas se priver d'aller jouer un classique à Marseille. Et puis, normalement, le grand favori du Ballon d'Or est blessé, donc il ne pourra pas jouer. Donc, il peut rester tranquillement à Paris et puis aller au théâtre recevoir son prix, si d'aventure c'est lui qui doit le recevoir.
Vous dites, Eric Figuère, il faut jouer le classico, mais on se rappelle, il y a quelques années, déjà en 2005-2006, les minots marseillais étaient allés jouer au Parc des Princes.
Alors, c'était une autre époque, c'était pour d'autres raisons, effectivement.
Bien évidemment.
Voilà, c'était...
On voit Pierre Forest qui fait un petit signe de la main, oui.
C'était très différent, mais moi je suis supporter de l'OM. Hein, donc,
au-delà du match, je trouve la polémique qui est déclenchée par évidemment l'équipe de Paris, compte tenu de ce qu'elle vient de dire, hein, c'est soit la remise de Oscar ou soit de jouer le match. Je crois quand même que s'il y a des décisions qui ont été prises, c'est parce que il y a risque, c'est vraiment un risque de jouer dans ces conditions-là.
Ah oui,
Toulon a été annulé et pour cause. Le rugby a déjà payé les pots cassés avec ça, puisqu'il y a eu un mort il y a quelques années sur un terrain avec la foudre.
La question en fait est de savoir si le match devait se jouer, parce que tu as tout à fait raison. Le match en fait ne devait pas se jouer et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus.
Et la règle est que le report doit se faire dans les 24
heures. Voilà, et en réalité, c'est la date du report qui pose problème, puisque les Parisiens ont proposé de jouer ce match bien plus tard.
À 15h, mais ils proposaient aussi de jouer à 15h.
Alors, un horaire différent, effectivement, mais bon, on peut facilement comprendre que pour les supporters marseillais, ça ne le fasse pas du tout. Et les Marseillais, du coup, le club, l'OM, a refusé les propositions qui étaient faites par Paris. Et c'est pour ça qu'il y a une polémique. La polémique vient aussi du fait qu'il se dit, et c'est une réalité, que le Paris Saint-Germain décide de beaucoup trop de choses dans le championnat de France.
Ah bon,
je ne dis pas ça du tout parce que je suis supporter de l'OM. Non, même pas.
Non.
Je ne suis pas de mauvaise foi. Bon, ça peut m'arriver. Mais là, non. Donc, en fait, il y a aussi cette polémique-là. Tout se mélange un petit peu. On sait qu'à la Ligue, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, le match se jouera, du coup, demain matin, comme prévu. Voilà. Et puis, il y aura la cérémonie qui se tiendra normalement.
J'aime autant que l'équipe de Paris soit au complet.
Absolument. Il n'est pas question.
Une petite raclée au stade Vélodrome.
Gérard Salon, vous n'avez pas entendu encore ça.
La polémique est idiote parce que le grand favori, comme tu as dit, il est blessé.
Ousmane Dembélé,
Dembélé, c'est le grand favori, le meilleur Parisien. Quoi. Je pense que les autres, on les a nommés, mais ils n'ont aucune chance d'être... gagner la coupe, voilà. Donc ils seront au complet.
Et puis, la France, même à l'OM, malheureusement, Donc ce sera à Marseille.
Justement, malgré certaines absences, Barcola aussi qui serait absent, Dembélé, il y a quand même une équipe B qui est quand même de très niveau, qui fait peur côté parisien.
Moi, je donnerais ma chemise pour que Marseille crée l'exploit. Mais il faut reconnaître que ce que fait le Paris Saint-Germain depuis un certain nombre d'années, et particulièrement depuis l'année dernière, il n'y a pas de débat. Évidemment que, heureusement, c'est la grande incertitude du sport. Heureusement, c'est jamais écrit à l'avance, bien évidemment, et qu'on va supporter l'OM pour nous, en tous les cas. Mais bon, si on regarde les forces en présence, même diminuées, même en regardant ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, alors bon, certes, ce n'était que l'Atalanta, mais... Oui. Bon, voilà, il y a deux classes d'écart avec 99% des clubs européens.
Oui, donc, mais pour parler de Marseille, Marseille est allé jouer au Real Madrid et n'a perdu que 2-1. C'est quand même un bel...
Oui, ils ont fait effectivement une belle... Il y avait une très belle prestation. Mais malgré tout, quand on regarde bien ce match, on se rend bien compte des manques.
Bien évidemment.
Des manques criants que l'OM, malheureusement, année après année...
Le score ne reflète
même
pas
avec,
beaucoup de nouvelles recrues.
Oui, même avec du recrutement. Les joueurs, pour le coup, ne se connaissent pas trop. Mais non, ça fait beaucoup trop juste.
Il faut qu'il y ait une deuxième équipe. Il faut qu'il y ait une deuxième équipe dans le championnat de France. On voit une troisième équipe. Parce que
Monaco a tenté, mais malheureusement, Monaco ne...
Trop inconstant. Voilà, trop inconstant pour tout un tas de raisons. Et l'OM aussi est trop inconstant. Après tous les ans, il y a une ou deux équipes qui se mêlent un petit peu à la lutte. Bon, mais le Paris est toujours devant, bien évidemment, parce que ils ont suffisamment bien construit, parce qu'ils ont aussi des moyens. Je vous rappelle quand même que le budget de Paris est de 900 millions d'euros par an, contre 250 millions à Marseille, qui est le deuxième budget du championnat de France. Donc ça ne se joue pas uniquement sur le terrain financier, c'est évident, mais...
Et on va clôturer donc cette émission en parlant quand même du Ballon d'Or. Est-ce que Ousmane Dembélé va le remporter ou c'est le Barcelonais Lamine Yamal? En quelques mots, Yamal ou Dembélé?
Le meilleur c'est Yamal, mais...
Celui qui a remporté le plus de
Mais Dembélé a gagné la C1 avec Paris.
Voilà. Ouais, pour moi, c'est Yamal qui devrait l'emporter parce que c'est un phénomène.
C'est un trophée personnel, il faut le rappeler.
C'est un trophée personnel.
Mais les critères sont aussi collectifs.
Mettre les victoires, c'est pas tout. C'est pas la vérité, moi, je pense, parce que c'est une équipe. Les victoires, c'est une équipe complète. Ce qui a mal, c'est un phénomène. Donc, théoriquement, le trophée devrait lui revenir.
C'est individuel, le meilleur joueur actuellement du monde et qui n'a que 18 ans, je vous le rappelle. On parlait de jeunesse tout à l'heure pour Sexas. Mais voilà, il a 18 ans, ça fait déjà 2 ans qu'il écrase tout, qu'il transperce ses défenses, comme on dit.
Il n'est pas parti au Chili pour la Coupe du Monde des U1, lui.
On rappelle que la Nouvelle-Calédonie affrontera l'équipe de France, les États-Unis et l'Afrique du Sud dans quelques jours.
Dans les médias qu'il y a le deuxième fils, Zidane.
Elias Zidane qui jouera avec l'équipe de France, exactement. On en reparlera dès la semaine prochaine, puisque l'émission va devoir se terminer, se clôturer. On va passer au coup de cœur, coup de gueule peut-être, messieurs, avant de partir et de laisser l'antenne pour le journal. Donc on s'agit, Pierre Forest, vous avez l'air de...
Je vais rester dans le rugby. Hein. Je vais donner mon coup de cœur à l'équipe du RC Mandor, qui a gagné la finale du championnat samedi dernier, et à son président Stéphane Courte, que je félicite encore, puisqu'il a pris la présidence depuis 2 ans de ce club et qui n'avait pas gagné le trophée depuis 13 ans. Donc bravo au Mandor.
Félicitations, une finale remportée face à l'Olympique.
Face à l'Olympique, oui.
Éric Figuère.
On a toujours envie de mettre plein de gens en avant, et je pense notamment à cet athlète Jimmy Gressier là, qui a obtenu la médaille d'or, les deux seules médailles du camp français au championnat du monde de Tokyo, en 10 000 et en 5 000. Mais comme pour Pierre, moi je resterai dans ma discipline de prédilection, et c'est le golf. Et comme samedi et dimanche, il y a l'Omnium de Tina qui se déroule donc sur le parcours de Tina, moi je voudrais vraiment féliciter et mettre en avant et la Ligue de golf et les différents clubs du territoire qui se battent année après année pour organiser des compétitions. Il y en a énormément pour permettre justement à tout le monde de pratiquer cette discipline, cette magnifique discipline, pour permettre aux jeunes de s'améliorer, qui se battent pour gérer leurs écoles de golf. Donc bravo au golf calédonien.
Il va donc falloir choisir ce week-end entre le golf calédonien et la Ryder Cup.
On va tout regarder.
On pourra faire les deux. Gérard Salé, on termine avec vous, votre coup de cœur.
J'ai deux coups de cœur. C'est pour l'équipe de Calais de Nouvelle-Calédonie qui s'est déplacée sur les routes polynésiennes et qui a brillé. J'ai eu le président de Tahiti qui m'a dit que les coureurs calédoniens avaient vraiment été formidables.
Le Calédonien terminé avec le maillot vert de meilleur sprinter, meilleur combatif.
Troisième plus combatif, donc c'est un beau résultat. Et puis pour mon club, le CV, qui organisait, l'École Calédonienne du Vélo, qui organisait les étoiles de la piste pour la 10e année. Par 10 ans, de jour pour jour, hein, ça a été le 20 septembre. Et puis des jeunes qui brillent parce que nous avons 4 coureurs en métropole et des jeunes qui ont fait le spectacle samedi. Je crois que Pierre était, je pense qu'il a vu que le spectacle était assuré, qu'on a des jeunes de talent.
Le spectacle
non seulement
assuré.
Dans le club, mais aussi dans les autres clubs.
Et l'avenir l'est aussi, si vous le dites, avec pas mal de jeunes qui brillent, de jeunes Calédoniens qui brillent dans différentes disciplines. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission.
Merci à vous.
Une semaine formidable.
Et à la semaine prochaine pour la Ryder Cup.
Exactement, pour la Ryder Cup et pour tous les autres sports, bien évidemment, le rugby, le cyclisme et tout le reste. Merci d'avoir suivi cette émission. Une très belle soirée à vous sur Radio Rythme Bleu.